Chapitre 6. La présence de Jean Noël avenue de Malakoff continuait de provoquer des incidents. L'un d'eux fut particulièrement désagréable. On était en juillet. Henri venait d'arriver à Paris. En mars, au cours de la permission précédente, M. Villemur l'avait prié de recommander Jean Noël à Berthoux. Henri avait refusé et personne ne lui en avait demandé la raison, un homme risquant sa vie chaque jour, n'ayant de compte à rendre à personne. Il avait refusé parce que si Jean Noël n'était pas en âge d'être appelé sous les drapeaux, il eût cependant très bien pu s'engager, ne serait-ce que pour l'honneur de cette famille Ettlinger, dont aucun membre à sa connaissance n'avait servi cette même France dont tous avaient su si bien profiter. En le revoyant 4 mois plus tard, toujours installé au milieu des siens, il ne put cacher sa mauvaise humeur. Aussi, quand on lui annonça un matin que Madame Mercier demandait à parler à Annie, se précipita-t-il pour la recevoir. En peu de mots, il lui fit comprendre qu'elle n'avait rien à faire avenue de Malakoff et, avant qu'elle partît, cependant que, surprise par cet accueil, elle demeurait bouche bée, il dit au domestique, en la désignant du doigt, de bien se souvenir de cette femme, de manière à la chasser sans hésitation si elle avait l'audace de se représenter. Madame Ettlinger, qui n'avait su de cette scène que ce que son frère lui en avait raconté, n'en avait pas moins été bouleversée. Quelques jours après, Henri retourna au front. Elle le conduisit à la gare. « Si j'ai un conseil à te donner, lui dit-il au milieu des cris et des sifflets, oblige Jean Noël à s'engager. Tu vois, je m'en vais. C'est le sort de tout le monde. Regarde, je ne suis pas le seul. S'il a de la chance, il en reviendra. Sinon, tant pis. En tout cas, ce sera mieux pour vous deux. » Le train s'ébranla. Annie accompagna son frère en marchant. En défendant sa place à la portière, il lui dit encore « Ne crois pas que c'est parce que je monte au front que je veux que tout le monde y aille. » En rentrant, Annie n'eut pas le courage de suivre le conseil de son frère. S'il venait à l'idée de Jean-Noël de s'engager, sans qu'elle y fût pour quelque chose, bien entendu, elle ne l'en dissuaderait pas. Autrement, tout continuerait comme avant. Mais qu'allait-elle faire de ce garçon ? Depuis la fameuse visite de sa mère, il recevait presque chaque semaine une lettre de Madame Mercier, lettre qui, si elle lui était adressée, n'en était pas moins écrite avec l'arrière-pensée qu'elle serait lue par Madame Ettlinger. Jean-Noël, qui veillait à ce que les désagréments qu'il avait eus ne se renouvelassent pas, remettait tout ce qu'il recevait à Annie. À cause de son beau-fils, celle-ci, qui aspirait à ne plus entendre parler du passé, était obligé d'y songer sans cesse. Sa famille ne lui faisait plus aucune observation au sujet de Jean-Noël. Ce silence, elle savait qu'il cachait de l'animosité pour le jeune homme. On ne lui pardonnait pas d'avoir imposé un étranger. Mais n'avait-elle pas promis à son mari de veiller sur ce garçon ? Même si elle ne le lui avait pas promis, n'était-il pas de son devoir de le faire ? Il était pourtant impossible que Jean-Noël demeurât plus longtemps avenue de Malakoff. Elle envisagea alors plusieurs manières de se séparer de Jean-Noël, tout en conservant sur lui cette autorité sans laquelle, comme l'avait dit Jean Melchior, il risquait de commettre les plus grandes fautes. Elles ne résistèrent pas à la réflexion. À aucune de ses amies d'enfance, Madame Ettlinger ne pouvait demander le service de prendre Jean-Noël en pension. Malgré les embrassades des premières rencontres, il était resté une gêne provenant de la trop longue indifférence d'Annie. Elle était partie comme si elle seule avait eu le courage de se marier avec un homme qu'elle aimait. Elle n'avait donné de ses nouvelles à personne. Si on feignait d'admirer le courage dont elle avait fait preuve, on la critiquait cependant dans ses allures provinciales, dans sa manière de détourner la conversation, dès qu'on lui parlait de ces 10 années qu'elle avait passées loin de Paris, et qui piquait la curiosité de tous, dans ce jeune homme dont elle était accompagnée et qui avait des airs d'enfant adultérin. Il restait les amis de ses parents, de ses frères, comme cette baronne de Berthoux, la mère de l'ami d'Henri, qui se disait patricienne bernoise, et qui, à la suite de revers, survenue il y avait près de 15 ans, dont elle entretenait encore aujourd'hui tous ceux qui l'approchaient, prenait des pensionnaires. Mais ne fallait-il pas une toute autre personne pour surveiller Jean-Noël ? Annie ne savait pas très bien de quelle faute celui-ci s'était rendu coupable à Nice. Elle n'en était pas moins convaincue qu'elles étaient graves. Elle ne devait donc pas plus songer à confier Jean-Noël à Madame de Berthoux qu'à un internat où il se fût trouvé parmi des jeunes gens de son âge. En prévision des luttes futures, il fallait d'ailleurs qu'il prît contact avec la vie, de manière à s'endurcir, à devenir un homme. 4 mois pourtant devaient encore s'écouler avant qu'il quittât l'avenue de Malakoff. Dans les premiers jours de décembre 1916, comme Annie prenait son petit déjeuner avec sa mère, celle-ci lui tendit soudain le journal. Dans une promotion de la Légion d'honneur figurait le nom du docteur Martin Ettlinger. « Qui est ce Martin Ettlinger ?» demanda Madame Villemur. « C'est sans doute le frère aîné de Jean Melchior. » Annie se souvenait vaguement de cet homme pour l'avoir rencontré 4 ou 5 fois à l'époque de son mariage. Elle conservait de lui une assez mauvaise impression. Il avait regardé longuement dans les yeux comme s'il voulait la fasciner. Il lui avait demandé comment une jeune fille de son rang pouvait aimer Jean Melchior sans ajouter pourtant quoi que ce fût qui pût nuire à celui-ci. Jamais elle n'avait fait part à son mari de ces conversations desquelles elle avait conclu que Martin n'éprouvait pas un bien grand amour pour son cadet. En apprenant, 11 ans plus tard, à un moment où, si elle ne regrettait pas de s'être mariée, elle n'en avait pas moins conscience d'avoir été trop enthousiaste, que le frère de son mari avait une conduite si méritoire, elle pensa que le jugement qu'elle avait porté sur lui, comme celui qu'elle avait porté sur la vie, avait été d'une jeune fille. Combien fier eût été M. Ettlinger, s'il avait été encore de ce monde, de la distinction dont venait d'être honoré ce frère, dont il avait toujours parlé avec admiration et respect. Annie se souvint qu'à la mort de Jean Melchior, M. Saglioni s'était chargé de prévenir les parents. L'avait-il fait réellement ? N'aurait-elle pas dû écrire personnellement à Martin, sans prendre avis de M. Saglioni, qui, s'imaginant que sa protégée n'était entourée que de gens en voulant à sa fortune, le lui avait déconseillé ? Ce n'était pas le regret de ne reconnaître les mérites d'un homme qu'avec la renommée qui lui donnait ses scrupules, mais l'idée que Martin eût été un excellent tuteur pour Jean-Noël. Celui-ci devait être appelé sous les drapeaux dans 4 mois. L'eût-il été dans 4 jours qu'elle se fût rendue, comme elle le fit le lendemain, rue Claude Bernard. Elle ne fut introduite qu'au bout d'une demi-heure dans le cabinet du docteur Ettlinger. C'était aujourd'hui un homme de 45 ans. Il reçut Madame Ettlinger froidement, comme si cette visite ne pouvait avoir d'autre raison qu'une sollicitation quelconque. Annie amena tout de suite la conversation sur Jean-Noël. Il était à présent un grand jeune homme qui allait avoir 19 ans. Elle insista sur le fait qu'elle n'était pas sa mère et qu'en conséquence, elle n'avait aucun pouvoir sur lui. Elle parla ensuite de Jean Melchior, des ambitions qu'il avait eues, de sa maladie, de cette lutte qu'elle avait dû soutenir avec sa famille pour l'épouser, du désarroi dans lequel elle s'était trouvée à sa mort et qui l'avait empêchée d'écrire à qui que ce fût. À son retour, elle avait été bien accueillie par son père, mais elle n'en était pas moins dans une situation fausse. Finalement, elle demanda à Martin Ettlinger s'il ne voulait pas se charger de Jean-Noël jusqu'en avril, date où la classe 18 serait incorporée. Cela n'impliquait pas désintéressement de sa part. Ne serait-ce pas plus sage ? Une femme seule a si peu d'influence sur un jeune homme. « Pourquoi, dit le docteur, ce garçon ne retourne-t-il pas tout simplement chez sa mère ?» Il feignit d'ignorer le mépris que son frère avait eu pour Ernestine Mercier. Annie lui rappela ce qu'était cette femme et combien Jean Melchior, s'il vivait encore, souffrirait de savoir son fils sous sa coupe. M. Ettlinger répondit que ce n'était qu'une supposition. Son frère étant mort, il était difficile de savoir ce qu'il aurait fait ou pensé. En outre, la vie était la vie. Ce qu'on rêvait de faire ne se réalisait pas toujours. Jean-Noël, d'ailleurs, était d'âge à se passer de conseils. Il était même un homme, et ce n'était ni son oncle, ni sa mère, ni Annie même, qui l'empêcherait de mal faire s'il en avait le désir. Si Martin Ettlinger s'exprimait avec mesure, il n'en éprouvait pas moins une grande joie à ridiculiser les aspirations de son frère et à faire figure, devant son interlocutrice, d'homme supérieur. « Je ne comprends pas très bien, continua-t-il, ce que mon frère espérait faire de son fils. » Il ne devait pourtant pas ignorer que la vie est faite de haut et de bas. Il est vrai que ce pauvre Jean Melchior était un utopiste, qu'il rêvait l'impossible. Il était mort en laissant derrière lui une situation tellement embrouillée qu'il n'était pas nécessaire de chercher bien loin les preuves de son incapacité, et c'était ses désirs qu'on s'acharnait à suivre. Annie n'avait pas osé interrompre Martin Ettlinger. Il lui avait déplu avec son attitude d'homme qui sait qu'on a dit du mal de lui et qui, conscient de sa valeur, feint de n'y attacher aucune importance. « Puisque vous vous êtes dérangée, madame, je veux bien vous donner quelques conseils, c'est tout ce que je peux faire, » avait-il dit. Ce fut avec tristesse qu'Annie rentra chez elle. Son mari n'était plus là pour lui faire oublier les petitesses de la vie par son charme et par sa douceur. Le même jour, par un hasard singulier, M. Villemur lui fit part d'une idée qui venait, paraît-il, de le séduire. « Pourquoi ne dirais-tu pas à Jean-Noël de retourner chez sa mère ?» Et il employa pour convaincre sa fille à peu près les mêmes arguments que le docteur Ettlinger. Jean-Noël était devenu un homme. Une femme, fût-elle sa mère, ne pouvait plus avoir d'influence sur son caractère. Annie refusa d'en entendre davantage. Trop d'années, elle avait considéré Madame Mercier comme un être nuisible pour se résoudre aujourd'hui à lui confier Jean-Noël. Son mari se présenta devant ses yeux. En même temps qu'il semblait résigné, un reproche émanait de son regard. Non, c'était impossible. Le lendemain, Madame Villemur, à qui la leçon avait été faite, essayait à son tour de convaincre Annie, mais en faisant appel à sa sensibilité féminine et en insistant sur le fait que Jean Melchior étant mort, toutes les rancunes passées devaient disparaître. Ernestine Mercier n'était peut-être pas une aussi mauvaise mère qu'on le croyait. Qui pouvait affirmer que ce ne serait pas le plus beau jour de sa vie que celui où elle retrouverait son fils? Madame Ettlinger fut inébranlable et Jean-Noël continua de demeurer avenue de Malakoff. Elle ne perdait cependant pas l'espoir d'obtenir du docteur Ettlinger qu'il consentît à s'occuper de Jean-Noël, sinon tout de suite, du moins dans l'avenir. « Je voudrais que tu ailles voir ton oncle, » dit-elle un jour à Jean-Noël. Il répondit affirmativement. Elle écrivit alors à M. Ettlinger qu'elle avait persuadé son beau-fils de lui rendre visite, qu'elle s'en réjouissait beaucoup, car elle jugeait de son devoir de lui faire prendre contact avec tous ceux qui pouvaient avoir sur lui une influence bienfaisante. Mais Jean-Noël remettait indéfiniment cette visite. Tout ce qui touchait à la famille de son père lui faisait honte. Annie insista plusieurs fois. Lassée finalement, elle écrivit une deuxième lettre au docteur, dans laquelle, comme si le destinataire était un confident de toujours, elle se plaignit du mauvais vouloir de Jean-Noël. Au reçu de cette lettre, Martin Ettlinger marqua du mécontentement. La veille, il avait fait savoir à Annie qu'il n'avait pas encore eu de nouvelles de son neveu. Ce signe d'existence, donné 15 jours après la première lettre de Madame Ettlinger, trahissait un désir visible de rester en relation. Annie, qui venait de s'excuser, ne jugea pas utile de répondre. Une semaine après, elle recevait une nouvelle lettre de Martin Ettlinger. Il la remerciait de lui avoir écrit, faisait allusion au croisement des deux lettres et, sans en donner la raison, demandait un rendez-vous. Quelques jours plus tard, il se présentait avenue de Malakoff. Dans le salon où il fut introduit, il affecta de ne pas voir les objets d'art, de n'attacher d'importance qu'au mérite réel de son interlocutrice. Comme s'il tenait à montrer tout de suite qu'il ne s'agissait de rien d'autre que de Jean-Noël, il exposa tout de suite le motif de sa visite. Il ne pouvait rien faire pour son neveu, mais il avait un ami. Dans ce milieu Villemur, dont il connaissait la richesse, il était fier d'avoir, lui aussi, ses pauvres. Cet ami venait d'être réformé. Il se trouvait dans une grande gêne. Il se chargerait volontiers de Jean-Noël. Naturellement, il faudrait, et ceci fut dit sur le ton d'un général parlant à un autre général, d'un soldat, lui venir en aide. À ce dernier mot, Annie fut prise de méfiance. Elle l'avait entendu tant de fois dans sa vie. Après le départ du docteur, elle raconta à son père ce qui venait de se passer, mais de telle manière que la proposition de son beau-frère, comme elle détestait ce mot, parut inespérée, afin que M. Villemur ne soupçonnât pas, comme elle l'avait fait, Martin Etzlinger d'avoir un intérêt quelconque à ce que Jean-Noël devint le pensionnaire d'un de ses amis. Malgré son impatience de se débarrasser de Jean-Noël, M. Villemur répondit à Annie que même s'il s'agissait du fils d'un indifférent, il ne le confierait pas à un étranger sans se renseigner sur celui-ci. Il demanda des précisions sur l'ami du docteur. Annie fut incapable de lui en fournir, ce qui ne l'empêcha pas, quelques instants après, car il estimait que du moment qu'il avait manifesté sa désapprobation, il était quitte, de reconnaître qu'après tout, puisque cet ami était recommandé par l'oncle même de Jean-Noël, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Annie retourna donc rue Claude Bernard. Accompagnée de Jean-Noël, elle se faisait conduire, le 20 janvier 1917 exactement, par Martin Etzlinger, chez l'ami si méritant dont nous venons de parler. Après avoir échangé avec celui-ci quelques paroles, elle se retira, lui laissant son beau-fils. Mais quelques heures plus tard, sous le prétexte le plus banal qui fut, celui de prendre l'air, Jean-Noël se rendit rue de Lille, au bureau de la place, non pour s'engager car il était trop tard, mais pour devancer l'appel de sa classe, sans user néanmoins du droit que cela lui donnait de choisir son arme.